VOA Afrique. Le Monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous, bienvenue à cette édition du jeudi 5 novembre 2015. À la une ce soir.
Burundi, encore des morts découverts dans les rues de Bujumbura et c'est le sauve-qui-peut dans certains quartiers contestataires.
Si M. Nkurunziza doit diriger le pays pendant 5 ans, est-ce qu'il va le diriger en tuant la population ?
L'armée de l'air du Niger a bombardé une base de Boko Haram dans le sud-est du pays.
Réaménagement constitutionnel au Burkina Faso, le Parlement de transition a modifié plusieurs articles de la charte fondamentale.
On a trouvé nécessaire, à défaut d'adopter donc une nouvelle constitution, de quand même faire un toilettage de cette constitution pour tenir compte des aspirations qui ont amené donc l'inflation populaire.
À Bangui, le gouvernement rejette l'ultimatum lancé par le Parlement de transition pour le réarmement des FK.
Lutte contre le groupe État islamique, la Turquie annonce pour bientôt une grande offensive en représailles à l'attaque suicide du mois dernier à Ankara.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports, mais d'abord le journal.
L'armée de l'air du Niger a bombardé une base de Boko Haram dans le sud-est du pays. D'après l'agence de presse Reuters, qui cite des sources sécuritaires, plus de 20 djihadistes ont également été arrêtés. Pour l'heure, il n'y a pas de bilan officiel.
Des morts retrouvés quotidiennement dans les rues de Bujumbura, la capitale du Burundi. Rien que ce matin, 4 corps ont été découverts dans 2 quartiers du nord de la ville. Les habitants des quartiers contestataires de cette partie de la capitale continuent de fuir. Dans le même temps, on s'approche de la date butoir du dimanche 8 novembre, fixée pour que les personnes possédant des armes les rendent. L'Union africaine se dit inquiète de la détérioration du niveau sécuritaire au Burundi. Les États-Unis appellent leurs ressortissants à ne pas se rendre dans ce pays d'Afrique centrale. Le point avec notre correspondant Christophe Nkurunziza.
Dans une conférence de presse jeudi, le porte-parole de la police a affirmé que 4 personnes ont été tuées mercredi soir à Mutakura et Chibitoke, 2 quartiers contestataires. Une des victimes, selon la même source, n'avait pas de tête et à une autre qu'on a enlevé son cœur. Le porte-parole de la police indique que 5 personnes ont été tuées par des insurgés, mais les témoignages de la population sont formels. Ce sont des policiers qui sont les exécutants. Ce jeudi matin, des habitants de ces quartiers fuyaient avec leurs ustensiles de cuisine, matelas et des destinations connus, craignant pour leur vie. Le président de la République avait donné lundi un ultimatum de 5 jours aux personnes possédant les armes de les remettre, faute de quoi tous les moyens seront utilisés pour combattre ces insurgés. Le premier vice-président, le ministre de la Défense et de la Sécurité, avait embrayé en affirmant que la récréation a assez duré et que même des avions, s'il le faut, seront utilisés pour déloger ces groupes d'insurgés qui sèment la haine et la désolation. La communauté internationale et africaine se disent inquiètes de la détérioration de la sécurité dans ce pays de plus de 10 millions d'habitants. Tout le monde appelle au dialogue inclusif entre tous les protagonistes burundais. Christophe Nkurunziza, Bujumbura, VOA Afrique.
Au Rwanda, le Sénat a commencé à examiner le projet de réforme de la Constitution. Il estime d'ores et déjà le principe pertinent. Et d'après l'AFP, le texte va maintenant être discuté sur le fond en commission. Rappelons que ce texte permet au président Paul Kagame de se représenter en 2017 pour un troisième mandat et de diriger le pays jusqu'en 2034.
En République centrafricaine, un nouveau bras de fer en perspective entre le Parlement et l'exécutif de transition. Le gouvernement a qualifié de démagogie l'ultimatum d'une semaine lancé par le Conseil national de transition pour exiger le réarmement des forces armées centrafricaines, les FACA. On fait le point avec Freeman Sipila, notre correspondant à Bangui.
48 heures après, la réponse du gouvernement est ferme. L'exécutif qualifie d'allégations démagogiques les propos d'Alexandre Ferdinand Guindy, président du Conseil national des transitions. Dominique Saïd Paguindy est ministre de la Justice et porte-parole du gouvernement.
Demander de manière spectaculaire le réarmement des FACA est non seulement irresponsable et démagogique, mais c'est surtout ignorer les résolutions des Nations Unies plaçant notre pays sous embargo et donc dans l'impossibilité d'acquérir ou de recevoir des matériels militaire au profit des forces de défense et de sécurité.
Le gouvernement déclare par ailleurs que la déclaration du président du Conseil national de transition témoigne des complots ourdis contre l'exécutif. À l'intérieur du pays, c'est le Rassemblement patriotique pour le renouveau des centrafiques, RPRC, branche de l'ex-Séléka basée à Bombari, qui s'insurge lui aussi contre le réarmement des forces armées centrafricaines. Son chef d'état-major, le général Joseph Zoundeko, propose lui la refondation de l'armée nationale en y intégrant les anti-Balaka et les ex-Séléka. Freeman Sipila, Bangui, VOA Afrique.
Présidentielle au Burkina Faso, Djibril Bassolé, figure de l'ancien régime de Blaise Compaoré, veut participer à la présidentielle prévue fin novembre. Incarcéré pour complicité dans le putsch manqué du 17 septembre, il se considère comme prisonnier politique. C'est ce qu'annonce son avocat.
Présidentielle en Ouganda, l'élection aura lieu le 18 février. Telle est la date avancée par la Commission électorale nationale qui a enregistré 8 candidatures. Yoweri Museveni, président depuis près de 30 ans, est le grand favori. Il aura pour principaux rivaux Amama Mbabazi et Kizza Besigye.
En Tanzanie, prestation de serment aujourd'hui du nouveau président John Magufuli. La cérémonie s'est déroulée à Dar es Salaam, la capitale économique, devant de nombreux chefs d'État africains et sous les applaudissements de la foule, Jacques Aristide.
Candidat du parti au pouvoir, John Magufuli a obtenu près de 60% des voix et largement devancé son principal rival, Edward Lowassa, à la présidentielle du 25 octobre. L'opposition affirme que le scrutin a été truqué, tandis que l'archipel semi-autonome de Zanzibar a annulé ses résultats en raison d'irrégularités présumées. Lors de sa prestation justement, le nouveau chef d'État a dit espérer que le parti au pouvoir à Zanzibar et l'opposition puissent régler leurs différends à l'amiable, rapporte l'AFP. Il a également promis de sortir la Tanzanie de la pauvreté. Samia Suluhu Hassan a également prêté serment. Elle est devenue la première femme vice-présidente de la Tanzanie et a promis de faire tout son possible pour donner des conseils avisés et honnêtes au président. Ont assisté à la cérémonie le président en exercice de l'Union africaine, le Zimbabwéen Robert Mugabe et les chefs d'État du Kenya, Uhuru Kenyatta, d'Ouganda, Yoweri Museveni, du Rwanda, Paul Kagame, de République démocratique du Congo, Joseph Kabila, d'Afrique du Sud, Jacob Zuma.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, le Royaume-Uni préparait aujourd'hui le rapatriement de ses touristes de Sharm el-Sheikh au moment où le président égyptien Abdel Fattah al-Sissi rencontrait à Londres le Premier ministre britannique. David Cameron a jugé plus que probable l'implication de l'État islamique dans le crash d'un avion russe dans le Sinaï. Le crash a fait, je vous le rappelle, 224 morts. Salwa Jafari.
Nous ne pouvons pas être certains que l'avion de ligne russe a été abattu par une bombe terroriste, mais il semble plus probable que tel était le cas.
Une déclaration du Premier ministre Cameron peu avant sa rencontre avec le président égyptien en visite à Londres. Cameron a annoncé la suspension des vols britanniques en partance pour Sharm el-Sheikh, bien que l'investigation soit toujours en cours. Il dit s'être basé sur des renseignements dont il n'a pas précisé la source. Pour sa part, le Kremlin a qualifié de spéculation les différentes hypothèses émises autour du crash en scepticisme partagé par les Égyptiens. Quant à Washington, on privilégie la thèse de l'implication de l'État islamique. La chaîne d'information CNN a cité plusieurs hauts responsables américains suggérant qu'une bombe aurait été placée à bord de l'avion par l'État islamique ou l'un de ses affiliés. Ils ont toutefois précisé que les services de renseignement américains n'ont pas examiné les preuves relevées sur les lieux du crash.
Une attaque aérienne contre le groupe État islamique dont l'est de la Syrie a fait au moins 19 morts. Selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme, les victimes sont toutes des civils. L'ONG basée à Londres, mais disposant d'un vaste réseau d'informateurs sur le terrain en Syrie, précise que les raids ont eu lieu à Boukamal, à la frontière avec l'Irak. La nationalité des appareils n'a pas été précisée, signale l'AFP.
La Turquie envisage de lancer dans les prochains jours une offensive militaire contre l'organisation État islamique. Suspect numéro 1 du sanglant attentat d'Ankara le mois dernier, a fait savoir le chef de la diplomatie turque Filirun Sinirlioğlu. Comme le souligne l'AFP, jusqu'à présent, les opérations de l'armée turque visaient surtout les rebelles du PKK, le parti des travailleurs du Kurdistan, rappelant que l'attentat suicide du 10 octobre a fait 102 morts et plus de 500 blessés.
Les Américains, dans leur majorité, n'approuvent pas la réponse du président Barack Obama au gain du groupe djihadiste État islamique. C'est ce que révèle un sondage Associated Press JFK publié aujourd'hui à la mi-octobre. 60% rejetaient l'approche des États-Unis pour combattre Daesh en Irak et en Syrie. Seulement 38% se disaient en faveur de la campagne militaire. Il y a un an, le taux était de 50%.
Retour sur la frappe de l'armée américaine du mois dernier contre un hôpital de Médecins sans frontières en Afghanistan. L'ONG internationale a déclaré qu'une enquête interne n'a révélé aucune raison possible pour cette attaque. Il n'y avait pas de combattants armés à l'intérieur ou aux alentours, selon le rapport de MSF. L'attaque a fait au moins 30 morts, dont 13 employés et 10 patients.
En Haïti, la tension reste vive et le gouvernement annonce un renforcement de la sécurité alors que le Conseil électoral provisoire doit annoncer ce jeudi les résultats préliminaires de la présidentielle du 25 octobre. Plus de 95% des procès-verbaux ont été traités par le CTV, le Centre de tabulation des votes. De nombreux candidats ont rejeté d'avance la victoire éventuelle du candidat soutenu par le président Michel Martelly, Jovenel Moïse. Au moins 3 des 53 autres candidats se sont déjà proclamés vainqueurs, mobilisant leurs partisans pour des manifestations. Le gouvernement promet de garantir l'ordre public.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
L'actualité économique en Afrique et ailleurs, c'est la Minute Éco avec Anastasie Tudiech.
Le président Obama a signifié au Congrès américain son intention de retirer le Burundi des pays bénéficiaires de l'AGOA, l'accord commercial préférentiel entre les États-Unis et l'Afrique. La manière américaine de protester contre les assassinats et tortures qui ont précédé la réélection très controversée de Pierre Nkurunziza. Réponse du président burundais ? Rien ne change. Les échanges commerciaux entre les États-Unis et le Burundi étaient déjà nuls et les relations diplomatiques ne sont pas rompues. Le groupe sud-africain de téléphonie MTN a vu sa licence d'exploitation au Nigeria renouvelée malgré l'amende de 5,2 milliards de dollars qui lui était infligée pour n'avoir pas débranché à temps les cartes SIM dont les propriétaires ne sont pas identifiés. Le groupe a jusqu'au 31 décembre pour payer les frais de renouvellement qui s'élèveraient à 94,2 millions de dollars. Et pour finir, l'Angola qui a émis un eurobond de 1,5 milliard de dollars pour des obligations d'une maturité de 10 ans. Les autorités angolaises ont salué cette première émission comme une première étape dans les relations du pays avec les marchés de capitaux. Le taux de cet emprunt, 9,5%, est un peu plus élevé que celui de l'eurobond émis par la Zambie en juillet, qui était de 1,25 milliard de dollars à 9,375%, mais il est inférieur de 125 points de base à celui du Ghana, 1 milliard de dollars à 10,75%. L'Angola, qui tire 70% de ses recettes fiscales et 95% de ses recettes d'exportation du pétrole, a été très lourdement frappée par la baisse du cours de l'or noir ces temps derniers.
La Minute Éco, merci Anastasie.
On passe rapidement à l'actualité sportive. 7e étape du Tour du Faso, 4e victoire d'étape pour l'Érythrée.
Oui, la 7e étape de ce Tour du Faso entre Bobo Dioulasso et Banfora, 85 km, soit la plus courte du Tour, a été remportée par l'Érythréen Michael Apton, vainqueur également de la 3e et de la 5e étape. Au total, l'Éthiopie détient 4 victoires d'étape, dont la première remportée par Bereket Yeman entre Ouagadougou et Waïguia sur 171 km. L'Érythréen Emmanuel Million retire le maillot vert du meilleur coureur au classement par points au Marocain Abdelati Saadoun, vainqueur de la 23e édition du Tour du Faso en 2009. Au classement général, le maillot jaune reste sur les épaules du Marocain Mouchine Lasseni.
Le maillot jaune, il gagnait à la fin d'étape des Ouaga. Je travaillais le maximum pour garder le maillot, moi et mes amis. Aujourd'hui, étape très dure parce qu'une petite étape, mais très très dure parce que les Eritrea attaquaient beaucoup. Nous, on regarde et garder le maillot, Inch'Allah, à la fin du tour, Inch'Allah.
C'est l'objectif.
Voilà, c'est l'objectif de nous, le maillot jaune, Inch'Allah.
Il faut dire aussi que le pays hôte Bagassi peine à s'imposer.
Oui, le pays hôte qui n'a remporté que 2 victoires peinant à s'imposer. Et vendredi, la 8e étape, 174,5 km, sera courue entre Bobo Dioulasso et Dedougou.
Quatrième journée de la Ligue des champions en Europe.
Eh bien, les Français de Lyon sont tombés 2-0 face au Zénith Saint-Pétersbourg. La Gantoise a battu Valence 1-0. Victoire de l'AS Roma sur le Bayer Leverkusen 3-2. Le Barça a assuré en infligeant un 3-0 au Batey Borisov. Peu de chance pour le Dynamo de Kiev en déplacement chez l'Olympiakos 2-1. Et le Bayern a écrasé 5-1. Arsenal.
Pour plus de nouvelles sportives, suivez voaafrique.com. Merci Bagassi Koura. Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique, Morgane Guériac et Chérubin Dorcy dans votre compagnie. On passe au dossier du jour, première escale Ouagadougou.
Réaménagement constitutionnel au Burkina Faso, le CNT, le Parlement de la Transition, a procédé ce matin à la modification de plusieurs articles de la Constitution. L'article 37, qui limite à 2 le nombre de mandats présidentiels consécutifs, a été verrouillé. Le Sénat, intégré dans l'organisation institutionnelle du Burkina Faso en mai 2013, a été supprimé. Pour le député Alexandre Sankara, il était nécessaire, au sortir de l'insurrection, de procéder à un toilettage de cette constitution.
On a trouvé nécessaire, à défaut d'adopter donc une nouvelle constitution, de quand même faire un toilettage de cette constitution pour tenir compte des aspirations qui ont amené donc l'insurrection populaire. C'est ça qui a conduit donc au vote ce matin.
Et dans quelles conditions désormais on peut modifier l'article 37?
Non, l'article 37 a été verrouillé, comme on dit. C'est-à-dire que ça fait, vous savez, dans notre constitution, il y avait des domaines qui n'étaient pas modifiables, des articles qu'on avait sacralisés. On a mis l'article 37 dedans. Et donc, désormais, on ne peut plus les modifier, sauf vraiment à passer à une nouvelle constitution.
Oui. Et quels sont les autres points clés en dehors de l'article 37?
Les autres points clés, comme je disais, c'est l'extirpation du Sénat, parce que le Sénat avait été déjà constitutionnalisé. Et comme c'était aussi un point de revendication pour des manifestants, alors le Conseil national de transition a jugé bon de l'enlever de la Constitution. Le troisième point clé, c'est la saisine du Conseil constitutionnel. Ça veut dire que jusqu'à présent, les citoyens ne peuvent pas saisir le Conseil constitutionnel. La saisine était réservée au président du CNT. Voilà. Donc désormais, il y a une réforme qui permet aux citoyens ordinaires de saisir le Conseil constitutionnel pour certains aspects.
Et puis il y a aussi la devise qui est revenue à la patrie,
oui,
ou la mort.
Oui, on a ramené la patrie ou la mort, nous vaincrons, en lieu et place de l'unité, progrès, justice. Ça aussi, c'est dans la logique de l'insurrection. Vous savez, les gens se retrouvaient à travers cette devise-là pendant tout le long des manifestations. Même après le putsch manqué du 16 octobre, c'est cette devise-là que les gens chantaient. Voilà, donc on a pensé qu'il fallait aussi constitutionnaliser cela, et ça répond aux aspirations des milliers et des milliers de Burkinabés qui sont sortis chasser le président Blaise Compaoré le 30 et 31 octobre.
À la fin de ce vote, le président du CNT, Chérif Sy, a dit ceci: nous avons accompli la mission que le peuple nous a confiée. Est-ce que c'est aussi votre sentiment?
Oui, c'est aussi mon sentiment, parce que, vous savez, au début, c'était difficile pour le Conseil national de la transition, mais au fur et à mesure, on a pu vraiment accomplir des missions qui rentraient en droite ligne avec les aspirations qui ont conduit à l'insurrection populaire. Et le vote ce matin de la Constitution, les amendements qu'on a adoptés rentrent en droite ligne de ces aspirations-là. Donc, véritablement, il a dit vrai.
Le député Alexandre Sankara a été joint par Bagassi Koura.
La Voix de l'Amérique au Burkina Faso sur Ouaga FM, 105.2 à Ouaga et 101.1 à Bobo. La Voix de l'Amérique, c'est aussi sur Horizon FM, à Ouaga, Bobo, Koudougou, Wayigouya et Fada.
Cap maintenant sur le Burundi, où la peur et la crainte hantent les habitants des communes de la capitale, où le troisième mandat du président Pierre Nkurunziza est contesté. Cette semaine, les autorités ont multiplié les mises en garde à l'endroit de ceux qui combattent la police. Les habitants de ces communes ont été sommés de dénoncer les insurgés, au risque d'être considérés comme ennemis du pays. Le troisième et dernier ultimatum lancé par le président expire demain et depuis ce matin, plusieurs habitants quittaient leur ménage pour aller se réfugier dans d'autres quartiers plus ou moins calmes. Eric Manirakiza a joint au sud de Bujumbura un des fuyards qui se fait appeler Mathias.
Je fuis la barbarie de nos forces de sécurité, des gens qui sont en tenue policière. D'après le discours du chef de l'État, avant-hier le 3 novembre, nous avons jusque samedi pour remettre les armes. C'est très bien que nous n'avons pas d'armes et il nous demande de les remettre samedi et que, passé ce délai, tous ceux qui se trouveront dans ce quartier seront considérés comme des ennemis de la nation. Alors actuellement, ce n'est plus le moment de prendre les déclarations de Pierre Nkurunziza à la légère. Il y a des actes qui ont déjà commencé. Hier soir, il y a un habitant de Tcharama qui passait à Mutakura, qui rentrait chez lui, qui a été assassiné sauvagement. Il n'avait commis rien comme faute, il ne faisait que passer. Maintenant, on se demande ce qui adviendra ce samedi. On se demande ce que signifie la déclaration du chef de l'État. On se demande ce que signifie les déclarations des ministres en charge de la sécurité, de la défense, etc. Quand ils menacent la population, clairement, et, bref, nous avons peur. Nous avons peur, nous attendons de voir ce qu'ils ont prévu de faire ce week-end. J'essaie de me mettre à l'abri, mais malheureusement, se mettre à l'abri où? Parce que, certes, nos quartiers ils sont menacés, mais on se demande s'ils ne vont pas aussi nous poursuivre dans les autres quartiers où nous allons trouver refuge pendant ce week-end.
Mais est-ce qu'il y en a qui sont restés chez eux?
Il y en a qui sont restés chez eux, mais je ne sais pas s'ils vont rester chez eux jusqu'à dimanche matin. Parce que quand nous avons quitté nos la police, il y en a qui ne sont pas des tueurs. Il y a des policiers qui habitent avec nous. Nous leur demandons ce qu'il en est. Ils nous disent qu'ils ne savent rien, mais ils nous conseillent de quitter.
Mais il y a quand même des combattants dans les quartiers qui se confrontent avec la police.
Il y a peut-être des combattants. Nous entendons des coups de feu la nuit. Alors quand il y a des coups de feu, nous autres qui ne sommes pas des combattants, nous sommes à l'abri dans nos maisons. Et alors, le lendemain, quand on nous présente les combattants tués, ce sont des élèves du secondaire, ce sont des femmes, des enfants, des papas que nous connaissons. Nous pouvons témoigner que ce ne sont pas des combattants. Ils ne nous présentent jamais des combattants capturés ou tués sur le champ de bataille. Nous entendons des coups de feu la nuit, naturellement, nous nous tairons. Le lendemain, on nous présente nos voisins comme étant des combattants, des enfants du secondaire, des femmes, des vieux. Ces combattants, nous ne les voyons pas.
Un déplacé dans la capitale burundaise, Mathias.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum. Ce jeudi, gros plan sur la guerre en Syrie après la décision des États-Unis de déployer un petit nombre de leurs forces spéciales sur le sol syrien pour encadrer les combattants kurdes dans leur lutte contre le groupe État islamique. S'agit-il d'une inflexion dans la stratégie américaine? Les États-Unis doivent-ils en fait s'impliquer davantage militairement? Quid du rôle de la Russie? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h10.
En République démocratique du Congo, l'opposition contre la nomination des commissaires spéciaux crie au coup d'État constitutionnel. Le président Joseph Kabila a récemment nommé ses commissaires spéciaux qui doivent diriger les 26 provinces nouvellement créées. L'opposition y voit une manœuvre du pouvoir pour compliquer l'organisation de l'élection présidentielle en 2016. Eddy Sango a joint à Kinshasa, l'opposant Albert Moleka Nzoko.
Tout d'abord, c'est une violation flagrante de la Constitution qui, à mon avis, démontre la volonté de M. Kabila de renverser l'ordre constitutionnel établi, puisque selon la Constitution, dans son article 198, les provinces, les institutions provinciales sont le gouvernement provincial et l'Assemblée provinciale. Il n'est mentionné nulle part dans la Constitution des commissaires spéciaux, encore moins des commissaires spéciaux qui dirigeraient des provinces. Donc c'est une violation flagrante de la Constitution.
Oui, mais la Cour constitutionnelle s'est prononcée.
Une violation à laquelle s'est prêtée, bien sûr, la Cour constitutionnelle dans son arrêt sur cette matière. La Cour constitutionnelle avait été saisie par la CENI en interprétation, vu que les règlements intérieurs de certaines assemblées provinciale de ces nouvelles provinces avait été considérée comme non constitutionnelle et d'autres provinces n'avaient pas encore rédigé leur règlement intérieur. Et la Cour, assez étrangement, dans son arrêt, avait enjoint le gouvernement de la République de prendre des mesures exceptionnelles pour assurer la sécurité et la paix et la gouvernance dans ces nouvelles provinces. On a vu la nomination des commissaires spéciaux. Ces provinces ne sont pas dotées d'assemblée provinciale ni de gouvernement provincial. Donc ces commissaires spéciaux vont gérer les provinces avec leur cabinet, ce qui est tout à fait totalement anticonstitutionnel et qui viole aussi même l'article 220 puisque cela porte atteinte au droit des citoyens d'élire même indirectement leurs dirigeants au niveau des provinces.
Sans ces commissaires spéciaux, comment pouvait marcher le nouveau découpage des provinces ?
A été promulguée en 2006 et en 2009, ces provinces devaient être installées en 3 ans. Pourquoi ces provinces n'ont pas été installées? Je crois que c'est ça la question importante. Pourquoi c'est en 2015 que, subitement, M. Kabila se souvient peut-être que la République démocratique du Congo est composée de 26 provinces et non de 11, telles que stipule la Constitution, et décide subitement d'installer ces provinces en dehors 30 jours?
C'était Albert Moleka de Restore Future Generation.
La Voix de l'Amérique en RDC sur Radio Télé Mwangaza à Lubumbashi, province du Katanga.
Le Parti démocratique de Guinée équatoriale, parti au pouvoir, s'apprête à désigner ce mois-ci son candidat à l'élection présidentielle de 2016. De ce fait, les autorités ont fermé les frontières nationales jusqu'au 15 novembre. Les groupes de l'opposition et les ONG de défense des droits humains accusent le président Obiang Nguema de diriger la Guinée équatoriale d'une poigne de fer depuis 36 ans. Timothée Dounangmaï a recueilli l'avis de Toto Alicante, directeur exécutif de l'organisation équatoriale Guinée Justice, basée ici aux États-Unis.
Quand je parle avec mes collègues, des avocats qui travaillent sur le terrain des droits humains ou bien les gens de la société civile, ce qu'ils disent, c'est qu'en vue des prochains congrès du PDG, par exemple, toutes les frontières terrestres sont déjà fermées en Guinée équatoriale. On ne peut pas voyager entre Cameroun ou bien Gabon. On ne sait pas pourquoi, mais clairement, le gouvernement a peur de ce qui peut se passer. C'est pour cela qu'ils ont décidé de fermer les frontières. Le chômage en Guinée équatoriale continue à monter en flèche. Il y a beaucoup des entreprises qui ont été obligées de fermer ou bien réduire les effectifs de manière significative.
Qu'est-ce que cela signifie pour l'activité des opposants de l'intérieur de la Guinée équatoriale?
Ça, c'est une très bonne question à poser aux gens de l'opposition. Pour nous, dans la société civile, clairement, on doit continuer à vivre dans la communauté internationale. Ça, c'est le moment d'investir dans la jeunesse, la prochaine génération des activistes qui vont travailler sur les droits de l'homme. C'est le moment maintenant d'investir avec les prochains cadres de journalistes dans le pays. C'est le moment de travailler avec la société civile.
Certains Africains disent que, contrairement aux autres chefs d'État, le président Obiang Nguema a construit son pays, l'a doté d'infrastructures modernes en tout genre. Qu'en dites-vous?
Ça fait longtemps que je n'étais pas en Guinée équatoriale. Je ne peux pas entrer parce que le président lui-même, il m'a dénoncé comme un ennemi de l'État. Donc, je ne peux pas parler de l'infrastructure. Ce que je peux dire, que construire des hôpitaux qui, la plupart des gens de la Guinée équatoriale ne peuvent pas payer une nuit dans ces hôpitaux, c'est pas quelque chose qui va bénéficier la société. Mais ce qu'on doit savoir, la Guinée équatoriale, comme la plupart des pays en Afrique, c'est pas une dynastie. On est en train de parler d'un congrès, on va avoir les élections l'année prochaine, et tout le monde espère que c'est le fils Théodorine ou bien Gabriel qui va remplacer son père, ou bien.
Toto Alicante, de l'organisation Equatorial Guinea Justice, joint à Miami en Floride. C'est la fin de l'édition.
À la mise en onde, Georges Léonard Sagnot. Présentation, Morgane Gaillac et Chérubin Dorsil.
Ainsi va Le Monde aujourd'hui. Retrouvez-nous sur Facebook avec vos impressions, vos photos, des questions. Et n'oubliez pas de visiter notre site internet voaafrique.com pour plus d'infos 24 sur 24. On reste ensemble.
Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone, sur 99 FM Abidjan, à Brazzaville sur 101.9 FM, à Lomé 99.5 FM, 92.9 FM, Bahia, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur ondes courtes, Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.